Je bénis Seigneur pour ce temps important. Nous allons aujourd'hui commencer notre séminaire sur l'eschatologie. Quand on parle d'eschatologie, il s'agit ici de tout ce qui concerne la vie de l'homme après la mort. Voilà, tout ce qui concerne le paradis, l'enfer, le purgatoire, la destination d'une âme, d'un esprit, c'est vraiment la partie de la vie humaine, puisque l'homme en réalité ne meurt que physiquement. Après, la mort sur le plan spirituel, ce n'est pas la mort de la destruction du corps, puisque les Hébreux et les Grecs font la différence entre la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, ils parlent de mavet, la mort spirituelle, on parle de oub. Voilà. En hébreu et en grec, c'est plutôt thanatos et nekros. Voilà. Donc, nous allons commencer notre séminaire sur l'eschatologie en commençant notre enseignement sur l'enfer. C'est un enseignement qui est très riche, c'est un enseignement qui est très important, c'est un enseignement en même temps qui est très complexe. Donc, je vais vraiment demander aux uns et aux autres de faire l'effort d'être présent, de faire l'effort d'être vraiment attentif, de faire l'effort de garder son cœur sensible, de sorte que cet enseignement soit véritablement une interpellation de la part du Seigneur pour que nous puissions, pour la conversion et pour la vie. Qu'est-ce que l'enfer? Est-ce que l'enfer existe vraiment? Pourquoi l'enfer? Devrions-nous en avoir peur? Qu'est-ce qui prouve que ça existe? Est-ce que Dieu permet vraiment l'enfer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont véritablement en enfer alors que Dieu est amour? Qui a été rescapé de l'enfer? Qui a vu l'enfer? Quels sont les signes que c'est réel? Quels sont les signes que ça existe? Où se trouve l'enfer? Quel est le bénéfice de connaître ces choses? Bien aimé, autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Et surtout, nous allons comprendre ensemble la réalité de l'amour de Dieu en parcourant les réalités de l'enfer. Bien aimé, si Dieu permet que nous puissions avoir ce thème aujourd'hui, c'est parce que c'est une réalité certaine. Si Dieu permet que nous ayons ce thème aujourd'hui, c'est pour que la connaissance te rende libre. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Mon frère, ma sœur, beaucoup de personnes qui ne réalisent pas ces choses vivent leur vie de façon désordonnée. Beaucoup de personnes qui ne réalisent pas ces choses vivent sans crainte de Dieu. Eh bien, aimé, crainte de Dieu en grec signifie une personne pour qui nous avons de la révérence. Une personne dont nous savons qu'il a pouvoir sur nous. C'est ça que ça signifie crainte en grec, crainte de Dieu. Eh bien, aimé, si nous ne réalisons pas ces choses, nous vivons comme des personnes qui pensons que nous pouvons pécher impunément. Nous pouvons vivre notre vie de façon imprudente. Nous allons vivre sans Dieu. Il y a cet exemple du riche Lazare. Jésus donne cet exemple du riche Lazare. Et bien aimé, c'est assez extraordinaire parce que vous savez, les Écritures, le premier évangile a été écrit en l'an 60, hein, après Jésus-Christ, c'était l'évangile de Marc. Et l'évangile de Luc et de Matthieu ont été écrits juste après. Et il faut savoir que ceux qui ont écrit l'évangile de Luc et de Matthieu se sont aussi un tout petit peu inspirés de l'évangile de Marc. Et ces trois évangiles parlent justement ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, parce qu'on retrouve dans ces trois évangiles des réalités de la vie du Christ similaires, preuve que réellement, en fait, ces évangiles sont authentiques sur le plan historique et sur le plan, même sur le plan archéologique. C'est prouvé que c'est réel, c'est vérifié. Bien aimé, dans ces évangiles, Jésus parle du riche Lazare. Et Jésus, frères et sœurs, est reconnu par Israël comme un prophète. Il est reconnu dans les trois grandes religions comme étant un prophète, un homme de bien. Pour nous, il est Dieu. Et nous savons réellement qu'il est Dieu parce qu'aujourd'hui encore, nous allons fêter la vigile, nous allons fêter la Pentecôte demain. Tout à l'heure, j'ai une prédication dans une paroisse pour la vigile de la Pentecôte. Et bien aimé, des miracles vont se produire, des guérisons vont se produire, des baptêmes du Saint-Esprit vont se produire, des gens vont se convertir à cause du nom de Jésus. Preuve que ce nom-là est le nom d'une personne qui est la vérité. Il a dit qu'il était la vérité. Et nous pouvons vérifier cette réalité de la vérité parce que toutes les fois que ce nom est proclamé, quelque chose se passe. Et frères et sœurs, Jésus parle du riche Lazare, du riche et du pauvre Lazare. Il dit que le riche va manger, boire, jouir de la vie comme il l'entend. Lazare va pleurer, mourir, et le riche ne va pas lui porter secours. Quand ils vont mourir tous les deux, ce riche se retrouve en enfer, et c'est tellement violent pour lui qu'il supplie d'avoir une goutte d'eau. Ce n'est pas pour rien que Jésus en parle, frères et sœurs. Si Jésus en parle, c'est déjà pour nous interpeller sur deux faits. Tu vas mourir un jour, je vais mourir un jour, tout le monde meurt. Bien-aimés, 100 ans en arrière, les personnes qui couvraient cette terre, ce n'était pas nous, c'était d'autres personnes avant nous. Aujourd'hui, c'est nous. Dans à peu près 50 ans, plus de la moitié, deux tiers de ceux qui sont là, seront morts. Et bien-aimés, si nous ne réalisons pas ces choses, nous allons croire que la vie s'arrête ici. Nous allons croire que nous devons vivre pour le travail. Nous allons croire que nous devons vivre pour l'argent. Nous allons croire que nous pouvons faire du mal à notre frère, vivre dans le non-pardon, en pensant qu'il n'y a pas de répercussions. Frères et sœurs, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Et bien aimé, celui qui ne croit pas mourra. La mort dont il s'agit ici, c'est une mort qui est bien plus grave que celle de l'arrêt du cœur. Cette mort-là, c'est l'enfer. Amen. Je vais demander à deux personnes d'ouvrir leur micro. Donc, si Roldia peut ouvrir son micro, ce serait super. Roldia et Isabelle. Tu peux ouvrir au micro? Ça me permettra à chaque fois de vérifier si on s'entend bien, si ce que je dis passe bien. Roldia et Isabelle. Voilà. Bonsoir Roldia, comment vas-tu?
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, ok. Donc, c'est vous qui allez répondre à même pour les autres et me prévenir si jamais on ne s'entend pas bien.
Ok.
Alors, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, l'enseignement sera relativement court, parce que c'est un thème qui peut être abordé sur plusieurs heures. Et donc, voilà. J'ai un cadeau pour vous à la fin. Un très, très beau cadeau. Un très, très, très beau cadeau.
Amen.
L'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? Il y a un auteur chrétien célèbre qui s'appelle Gabriel Roussis. C'est un écrivain chrétien célèbre qui est l'auteur de nombreux livres qui ont aidé justement les compréhensions des choses qui concernent la foi chrétienne. Il dit ceci. Il dit: si les hommes préfèrent en masse l'enfer, c'est parce qu'ils préfèrent en masse le péché. Si tu poses la question « qui est le fils du diable ?», personne ne te dira moi. Mais si tu poses la question « qui préfère vivre dans l'adultère ?», qui préfère vivre dans le concubinage, qui préfère ne pas pardonner son frère, qui préfère garder la rancune, qui préfère critiquer les frères, qui préfère juger. Vous allez voir que beaucoup vont choisir ça. Mais la vérité, c'est que lorsque je choisis le péché, lorsque je choisis le mal, lorsque je choisis la méchanceté, lorsque je choisis le non-pardon, lorsque je choisis l'orgueil, lorsque je choisis l'amour de l'argent, en fait, je choisis le diable, je choisis l'enfer. Il est écrit, et j'aimerais justement, Isabelle, est-ce que tu peux m'aider par rapport au verset du livre? Est-ce que tu as ta Bible?
Ok.
Bon. Alors, je te donne des versets maintenant. Je vais le premier même, mais les versets que je vais te donner, je te les donne dans l'ordre. Et à chaque fois, je vais te donner le verset suivant, et tu vas le lire. Le premier verset, c'est le psaume, chapitre 6, verset 5. Le psaume 6, 5. Voilà. Le deuxième psaume, c'est le deuxième verset, psaume 16, verset 10. Le troisième, c'est Romains, chapitre 6, verset 10. Le quatrième, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 18. Le cinquième, c'est Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Ensuite, c'est Jean chapitre 14, verset 21. Ensuite, c'est la première épître de Jean chapitre 3, verset 8 à 9. Ensuite, c'est Matthieu chapitre 13, verset 41 à 32. Ensuite, on a Romains chapitre 6, verset 23. Ensuite, on a Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et c'est le dernier. Est-ce que tu peux relire ou pas, c'est bon?
Si tu peux relire, s'il te plaît.
Ok, donc je disais psaume 6, verset 5. Psaume, ensuite, psaume 16, verset 10. Ensuite, Romains chapitre 6, verset 10. Ensuite, Apocalypse chapitre 1, verset 18. Ensuite, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Ensuite, Jean chapitre 14, verset 21. Ensuite, première épître de Jean au chapitre 3, verset 8 à 9. Ensuite, Matthieu chapitre 13, verset 41 à 42. Ensuite, Romains chapitre 6, verset 23. Ensuite, Apocalypse chapitre 20, le verset 10. C'est bon?
Bon.
Ok. Il est écrit en Matthieu au chapitre 25, le verset 41 à 46. Matthieu, chapitre 25, le verset 41 à 46. Voilà ce qui est dit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Bien-aimés, ça c'est Matthieu 25, 41 à 42. Bien-aimés, Jésus, Isabelle, si, ok. C'est un peu bouillant, essaye de mettre dans un endroit calme. Bon, Isabelle va faire quelque chose pour qu'il ne soit pas embêté. Quand je cite le verset. Ok, c'est bon. Mais Jésus parle. Et Jésus parle en disant « Retirez-vous de moi, maudit. » Il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est une personne qui sait seulement dire « Je vous aime, l'amour, la misère. » Bien aimé, Jésus a dit « maudit. » Les Ivoiriens disent « maudia. » Jésus a dit « Retirez-vous de moi, votre maudia. » C'est à peu près ça. Allez dans le feu éternel Bien aimé, c'est quand même quelque chose d'assez tragique. Le Seigneur énonce une réalité certaine. Il y a des personnes à qui Jésus dira « Vous êtes maudits ». Il dira « Votre maudia ». Il dira « Allez dans le feu ». Bien aimé, Jésus va envoyer, sinon, ouvrir la porte de l'enfer des âmes à des gens autant qu'ils aiment, puisque la Bible dit que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, Dieu est amour, Jésus est amour, mais étant amour, il dira quand même à certains « Votre maudia ». Bien aimé. Les hommes préfèrent en masse l'enfer. Qu'est-ce qui fait que Jésus tient des propos aussi durs? Qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus puisse aller jusqu'à dire à une personne, « Oh mon Dieu, c'est quand même violent. » Bien aimé, nous écoutons les prédications qui parlent de l'amour de Dieu. Nous voyons bien que Dieu nous aime. Nous commettons les pires péchés du monde. Jésus nous tire la main. Jésus nous dit, « Convertis-toi, je t'aime. » Jésus donne sa vie pour nous. Mais il dit aux mêmes personnes à qui il a dit, « Je vous aime. » Beaucoup, à beaucoup, il dira, « Votre maudit, allez dans le feu éternel. » Bien aimé, qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que l'enfer? Qui va en enfer? Pourquoi l'enfer? Il faut déjà faire la différence. Hein. Pour ceux qui sont catholiques, dans le lycée Constantinople, on dit le Christ est allé aux enfers, dans l'enfer. Et bien aimé, il y a une différence entre enfer et les enfers. Le mot enfer, tel que le Christ le présente ici dans Matthieu 25, c'est ce qu'on appelle la géhenne. En grec, c'est géhenna. C'est le lieu de la mort éternelle. Et l'enfer, c'est ce que les Hébreux appellent le Sheol ou le séjour des morts. Qu'est-ce que c'est? Le psaume verset 6, verset 5. Isabelle, tu peux prendre le psaume 6, verset 5, tu peux lire?
Ok. Psaume 6, verset 5.
Psaume 6, verset 5. Et à chaque fois, quand
Seigneur.
Oui, vas-y.
Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de fidélité.
Ok. Maintenant, le psaume 16, verset 10.
Psaume 16, verset 10. Ils sont bouffis de graisse. Pardon. Lève-toi, Seigneur, affronte-le, fais-le prier. Par ton épée, libère-moi du méchant.
Le psaume, verset 10.
Ils sont bouffis de graisse, leur bouche parle avec arrogance.
Ok, ça c'est le psaume 17. Le psaume 16, après le psaume 16, c'est vrai que si on prend l'hébreu, la Bible hébraïque et la Vulgate en grec, c'est pas pareil. En fait, le psaume 16, 10 dit « Car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, tu ne peux laisser ton fidèle voir la fosse. » Voilà. « Mon âme au Sheol. » Exactement ça, mon âme au Sheol, et c'est bien ça. Le psaume 6, 5, effectivement, c'est ça, c'est « Reviens, Yahvé, délivre-moi, sauve-moi en raison de ton amour. » Bien aimé, « Reviens, Yahvé, délivre-moi en raison de ton amour et délivre mon âme du Sheol. » Le Sheol, ici, c'est l'enfer, c'est le séjour des morts. C'est le séjour des morts. Tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ne peux laisser ton fidèle voir la faute. Bien aimé, ici, il faut savoir une chose, c'est que nous croyons que avant que Jésus ne meure sur la croix, et donc qu'il ne laisse les clés du royaume, il y avait un lieu qu'on appelait le séjour des morts, et le psaume 16 dit, le confirme ici, et ce séjour des morts, les Israélites, les Hébreux à l'époque disaient que quand quelqu'un meurt, il est au séjour des morts, vous voyez. Et ce séjour des morts accueille tous les morts. D'ailleurs, David dira dans l'œuvre des psaumes, les morts ne te louent pas. Et frères et sœurs, ils croyaient effectivement que quand tu meurs, tu vas au séjour des morts. Tu vas au paradis, tu vas au séjour des morts. Et c'est Jésus-Christ qui va inaugurer le ciel et le paradis en ouvrant le paradis et en inaugurant en disant au bon larron, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien aimé, les enfers ou le Sheol ou le séjour des morts, c'est le lieu où Jésus-Christ de Nazareth qui allait prêcher l'évangile lorsqu'il est mort pour aller proposer le salut à ceux qui y étaient. C'est pourquoi ceux qui sont nés avant Jésus et qui n'ont pas écouté, qui n'avaient pas écouté la parole de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, ils ne sont pas en enfer. En tout cas, pas tous. Ceux qui sont en enfer, ce sont ceux qui en ont fait le choix. Jésus-Christ va aller dans les enfers pour proposer le salut à tes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, que ce soit les Africains, donc les Noirs, les Amérindiens, les Américains, les Européens, toute l'humanité entière a vu Jésus-Christ. Tous ceux qui sont morts ont vu Jésus-Christ, ont eu la possibilité de choisir l'amour de Dieu ou l'enfer, même ceux qui étaient morts, parce qu'ils étaient au séjour des morts et Dieu avait prévu dans sa grande miséricorde, justement, de pouvoir proposer le salut, puisque le sacrifice de Jésus est intemporel, c'est-à-dire qu'il prévaut pour l'avenir, donc pour nous aujourd'hui, il prévaut pour le présent, donc pour ceux qui écoutaient la parole de Dieu à l'époque où Jésus était sur la terre, il prévaut pour le passé. C'est pourquoi les catholiques n'ont pas de mal à dire que Marie est née sans péché, puisqu'elle a bénéficié du salut par anticipation. Pourquoi ? Parce que le sacrifice de Jésus est intemporel, c'est-à-dire que ce sacrifice de Jésus sert pour l'avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ et pendant Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Ok. Alors, et donc, les enfers, ce n'est pas l'enfer. Les enfers, c'est le Sheol, c'est ce lieu où Jésus est allé proposer le salut. L'enfer, en grec Géhenna, ou la Géhenne de feu, c'est l'endroit où, sinon, c'est un état. Bien aimé, lorsqu'on parle d'enfer, l'enfer, en théologie, on dit que l'enfer est un état. Les Hébreux, les Israélites, à l'époque, pensaient que l'enfer, les enfers, le séjour des morts se trouvait au centre de la terre, au centre de la terre. Donc, ils fixaient le lieu géographique au centre de la terre. Mais nous savons aujourd'hui que l'enfer n'est pas une réalité physique, matérielle, c'est une réalité spirituelle. Parce que ceux qui vont en enfer, ce sont les âmes, les esprits. Ce n'est pas le corps. Le corps ira en enfer au moment de la partie, donc de la venue prochaine de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsqu'il est monté au ciel, des anges apparus, des personnes en vêtements de blanc, on dit de la même manière, il est parti, il reviendra. Ça veut dire qu'au moment de la résurrection des morts, lorsque nous allons revenir avec nos corps, la mer, la Bible dit que la mer va cracher ses morts, rendre ses morts. À ce moment-là, des gens iront en enfer avec leur corps. Pour le moment, c'est une réalité purement spirituelle que l'esprit peut expérimenter de façon éternelle si celui-ci ne choisit pas Jésus-Christ, c'est le sauveur, ou du moins s'il manquent gravement à la charité. Amen.
Amen.
Frères et sœurs, la Bible dit, dans Romains chapitre 6, verset 10, tu peux lire Romains chapitre 6, verset 10. Romains 6, 10.
Ok. Excusez-moi, je suis un peu lente. Hein.
Romains 6, 10. En attendant Romains 10, voilà ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Voilà ce qui est écrit. Il est écrit, le vivant, je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Vous m'entendez?
Amen. Oui.
On m'entend bien?
Oui, oui.
Ok, d'accord. Alors, pour ceux qui n'entendent pas bien, essayez de couper, de couper la connexion et de vous déconnecter, de vous reconnecter. Vivant, je fus mort et voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de l'Hadès. Bien, Hadès ici, c'est le séjour des morts. C'est ce que les Grecs appellent ça l'Hadès. L'Hadès, c'est le séjour des morts. Voilà. Dieu à la clé de l'Hadès, ça veut dire que après sa mort, durant les trois jours avant sa résurrection, il est allé aux enfers, il a récupéré les clés de l'Hadès, donc les clés du séjour des morts, il a ouvert, proposé et donné le salut aux morts, justement, qui sont morts avant que lui ne soit mort sur la croix. Voilà. Le psaume, c'est ça.
Oui. Le psaume 6, Romains 6, verset 10.
Romains 6, verset 10, oui.
Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit.
Okay. Bien-aimé, Jésus-Christ a délivré les âmes des enfers. C'est ce que dit Romains 6, 10. Il est vivant, et il a donc ramené à la vie, et la vie, ce n'est pas la vie charnelle, c'est la vie de l'âme. Ça veut dire qu'il a permis que l'homme, que les âmes qui étaient aux enfers puissent désormais être proches de Dieu, être connectés à Dieu, être en Dieu. Bien-aimé, il faut savoir que la mort spirituelle, ce n'est pas le fait d'être poignardé. La mort spirituelle, c'est être coupé de la présence de Dieu. La mort spirituelle, c'est être loin de Dieu. Mes frères et sœurs, beaucoup ne réalisent pas la réalité de cette mort. Pourquoi? Parce que, étant sur la terre, à cause du fait que tu puisses jouir de certaines choses dans ton corps, la nourriture, la boisson, le sexe ou autre chose, tu peux ne pas réaliser ce que c'est la mort spirituelle. Bien aimé, certaines personnes qui ont une certaine vie en Dieu, mais permettez-moi de citer des noms de personnes que je crois et je sais qu'ils ont une vie en Dieu. Après ça, c'est ma parole, ce n'est pas l'Église qui le dit. Des personnes comme le Père Noir, comme la sœur Marie-Noël, qui sont des personnes qui ont une vraie vie en Dieu. Et lorsque je discute avec ces personnes, lorsqu'elles vont commettre un péché, elles le sentent juste dans leur cœur. Pourquoi? Parce que du fait d'être proche de Dieu, du fait d'être des personnes spirituelles, du fait de véritablement grandir dans la vie d'esprit, tu prends conscience, et si ton âme réalise, comprend, l'âme devient sensible pour véritablement frôler la réalité de l'absence de la présence de Dieu. Parce que tu fais. L'âme est loin de Dieu. Lorsqu'elle est dans le corps, lorsqu'elle est dans le corps, dans un corps, l'esprit dans un corps charnel, si la personne n'est pas sensible, si la personne n'a pas de vie en Dieu, elle ne réalise pas ce que c'est qu'être loin. Pourquoi? Parce qu'elle est purement mondaine, parce qu'elle vit Elle a une qui est très charnelle. Elle nous dit qu'elle sait. Et d'ailleurs, la chair, dit la chair, elle est très charnelle. Du coup, son esprit, sa conscience, ses réalités spirituelles, elle est aveugle sur ses réalités, si insensible. Mais bien aimé, sachez chose, lorsque le corps meurt, ces réalités-là sont bien réelles, les réalités terrestres. Frères et sœurs, c'est une douleur, c'est une souffrance, c'est une réalité extrêmement dure, sinon inconcevable souffrance que la réalité d'être coupé de la présence de Dieu. Bien aimé, être coupé de la présence de Dieu, c'est comme priver un poisson. Il ne peut ni manger, il ne peut pas respirer, il ne peut pas se mouvoir. Bien-aimé, c'est une réalité extrêmement dure. C'est difficile parce que beaucoup de gens, partis au charnel, ne réalisent pas ça. Est-ce que vous savez, vous remarquez que dans les sacrements, il y a toujours, on utilise un sacramental. Pour le baptême, ça va être l'eau. Pour la communion des espèces du corps et du sang, du pain et du vin, pour la confirmation, donc la chrismation, c'est l'huile sainte, mais le sacrement de réconciliation, normalement, ça doit être là. Ce que dit le frère Amos Stéphane, dit, mais combien vont confesser sans pleurer? Combien vont confesser? Jamais ne pleurent leur péché. Lorsque tu ne fais pas pleurer ton péché, pas forcément des larmes physiques, mais si tu ne sais même plus pleurer ton péché dans ton cœur, mon frère, ma sœur, c'est que tu as perdu ta sensibilité spirituelle. Tu as perdu une sensibilité avec l'Esprit de Dieu. Et c'est difficile dans ces cas. Pourquoi? C'est parce que tu ne t'en rends pas compte, tu es devenu très chêne. Et si tu es chêne, les réalités, les rédons, tu commences à en avant. Le goût. Tu aimes le goût. Et si tu n'as plus le goût de la réalité, alors tu perds Jésus-Christ. Tu perds Saint-Esprit. Je te dis, c'est la prière de Saint-Esprit. Dans la prière de Saint-Esprit, donc au Thessalien, n'ayez pas Saint-Esprit. Est-ce que qui va en le capitaine qu'on a mis aussi nous dit l'Écriture appelle à la responsabilité de l'homme. Elle a la responsabilité de l'homme. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 7, le verset 13 à 14. Matthieu 7, le verset 13 à 14. Voilà ce qu'il écrit. Matthieu 13. Entrez dans la porte étroite. Là, on est spacieux, est le chemin qui mène et il y en a beaucoup s'y engagent. Mais étroite, petite, porte le chemin à la porte. Il en est peu de trous. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Toute personne ne dit amen. Isabelle, si vous ne dites pas amen, je m'arrête. Amen.
Amen, amen.
Ok. Bien-aimé Matthieu 13 dit que l'enfer, la perdition est large et beaucoup s'y engagent. Mais que le paradis est étroit, le chemin, pas le pas. Pas l'endroit même, pas la finalité, je vais parler de lieu spirituel. Le chemin qui mène en enfer est large et beaucoup y vont. Le chemin qui mène au paradis est étroit et peu l'empruntent. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, puisque le catéchisme dit au numéro 1036 que les Saintes Écritures sont un appel à la responsabilité de l'homme, ça veut dire ici que l'enfer n'est pas un hasard. Le paradis n'est pas un hasard. C'est un choix. Bien aimé, Aucun être humain sur la terre n'est allé en enfer sans en faire le choix. Ça n'existe pas. Mais bien aimé, si tant de personnes vont en enfer, parce que ce passage nous dit qu'il y a plus de personnes qui vont en enfer que personnes qui vont au ciel. Mon frère, sœur, parmi les 100 personnes qui composent ta famille, il faut savoir qu'au moins 70 vont en enfer et puis 30 vont être sauvés. Sinon, moins vont être sauvés. Si tu ne fais rien, ceux qui tentent de regarder, ceux qui tentent de subir les circonstances de la vie, ceux qui se comptent de regarder, tiens, passifs, bien aimés, ils vont voir le plus grand nombre des êtres humains, de leur famille, de leur milieu de vie, de leur pays, aller en enfer. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens prennent prennent le chemin de la vie. Vous savez que Saint-Thérèse de Lisieux, que Faustine de Kowalska, que Saint-Thérèse de Sarov et Brigitte de Suède s'accordent à dire que les catholiques, les chrétiens, il y a plus de gens qui vont en enfer. Et que la plupart des chrétiens vont en enfer plutôt qu'au paradis. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les personnes qui ont été comme des rescapés de l'enfer parce que beaucoup d'entre eux, de ces saints-là, de l'Église catholique, ont eu la grâce de visiter l'enfer. Thérèse de Lisieux dit même que les âmes qui vont en enfer sont comme des flocons de neige. C'est-à-dire que, bien aimé, ils sont innombrables. C'est des milliards de personnes. Et bien aimé, le total des êtres humains qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près à plus de 80 milliards. Et dans les 80 milliards-là, plus de 40 milliards sont faits. Ce n'est pas une vérité de foi, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais la Bible stipule bien, et Jésus stipule bien, qu'en fait, plus de gens vont en faire qu'au paradis. C'est pourquoi Christ nous interpelle à prêcher les vies. Christ nous interpelle à mettre nos dons au service des frères pour qu'ils soient faits. C'est bien d'aider quelqu'un à faire du travail. C'est bien d'aider un moment qui soulève son marché de venir aider à faire ça. C'est bien. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu réalises que les gens d'années sont permis et que tu es là et tu connais la parole de Dieu? Tu as une tu connais Jésus-Christ de la reine. Jamais tu ne parles de lui. Tes collègues avec qui tu es tous les jours sont susceptibles. Faire. Tes amis, tes collègues de classe, ta famille. Et puis tu es là, tu risques seulement jamais, tu ne parles. Bien aimé, j'ai décidé de passer à aider les siennes plutôt que de perdre du temps de bâche et dans. Parce que frères et sœurs, l'enfer est une réalité terrible. Mais ça existe. C'est vrai. Bien, l'enfer existe. Est-ce que tu peux mourir demain? Et tu peux mourir demain. Et si tu n'as plus Christ au cœur, si tu ne t'es pas réellement converti, si tu ne marches pas selon sa parole, tu vas y aller. Beaucoup de personnes pensent qu'à cause de la miséricorde de Dieu, ce n'est pas bon de juger les gens. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai une personne très chère qui me dit souvent, mais toi, tu aimes juger, c'est toi, mon Dieu, qui va décider de qui va en enfer. Mon frère, ma sœur. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Jésus est clair. Jésus est là-dessus. Si tu n'empruntes pas le chemin de la vie, alors tu mourras. Si tu empruntes le chemin de la vie, alors tu vivras. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.
Qui va en enfer?
Amen.
Alors il faut déjà comprendre une chose. Comme je disais tout à l'heure, c'est de la responsabilité de l'homme que de faire le choix d'aller en enfer ou au paradis, de choisir la vie ou la mort, de choisir le péché ou l'amour ou la charité. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 1033, désolé hein, pour ceux qui ne sont pas catholiques, lorsque je dis catéchisme de l'Église, ce n'est pas, je dis ça en fait pour vous, pour que je ne prêche pas, je le dis pour vous, en fait, pour que vous sachiez, pour que vous ayez aussi les sources. afin d'aller vérifier. Nous dit, numéro 1033, que nous ne pouvons pas être unis à Dieu si nous ne choisissons pas libre d'aimer. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu si nous ne choisissons pas librement de l'aimer. Mais mon frère, ma soeur, qui va en enfer? C'est celui qui refuse d'aimer Dieu. Et qu'est-ce que aimer?
Amen.
La Bible dit dans Jean 20, verset 21. Jean chapitre 21, le verset qui est écrit. Je vais lire Jean 21. Ah non, désolé. Jean 14, il n'y a pas le chapitre 24. Jean 14, verset 21, voilà ce qui est écrit. Il est écrit, celui qui est commandement et qui les garde, c'est celui-là qui aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus, quand il parle d'amour, il ne dit pas l'amour, c'est les belles paroles. Il ne dit pas aimer, c'est aller à l'église. Il ne dit pas que aimer, c'est l'évangile. Il ne dit pas que aimer, c'est dire j'aime Dieu, je suis fort de Dieu. Il ne dit même pas que aimer, c'est refuser de faire du mal à l'autre. Non. Il ne dit pas qu'aimer, c'est être gentil. Il ne dit pas qu'aimer, c'est être courtois. Il dit que aimer, c'est quand tu écoutes sa parole, que tu la gardes et que tu la pratiques.
Amen.
Mon frère, ma soeur, combien de personnes se trompent sur ce que c'est qu'aimer? Tu vas dire au frère André, mais toi, tu es orgueilleux. Toi, vraiment, tu es machin. Mais mon frère, ma soeur, lorsque je m'humilie pour aller pardon, lorsque je m'humilie pour tout faire pour me réconcilier avec quelqu'un avec qui j'ai des problèmes, lorsque je vais faire l'effort de vivre, quand je vais faire les efforts pour prier chaque jour, quand je vais faire les efforts pour vraiment, lorsque Dieu me dit, André, aujourd'hui, je veux que tu ailles voir, je veux que tu ailles prier 5 heures au sacrement, pour faire l'effort pour faire. La parole de Dieu me dit, lorsque Jésus m'a mis dans ta poche, prends les 10 000 d'impôts, et puis je n'ai plus d'argent après. Et quand tu fais l'effort d'obéir à Dieu, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une conséquence. Bien aimé, si je n'obéis pas à Dieu, ça veut dire que je ne l'aime pas. Si j'obéis à Dieu, alors ça veut dire que je l'aime. Et c'est pareil pour vous. Si vous obéissez à Dieu, ça veut dire que vous l'aimez. Si vous ne l'obéissez pas, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. L'obéissance à Dieu, ce n'est pas que l'obéissance à la parole écrite. Hein. Ce n'est pas le devoir, la Bible, c'est écrit, tu ne connais pas la vie. Non, l'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance à son plan d'amour pour toi.
Amen.
Nous sommes nombreux ici à qui Dieu a parlé, prophétiquement. Nous sommes nombreux à qui Dieu a parlé ici par des songes, des visions. Nous sommes nombreux ici à qui Dieu a parlé dans le cœur. Il y a des gens ici, Dieu t'a parlé dans ton cœur et t'a dit d'aller te réconcilier avec ton frère. Dieu t'a parlé dans le cœur et t'a dit d'arrêter de faire le Congo ça. Dieu t'a parlé dans le cœur et t'a dit de répondre à l'appel qu'il t'a adressé pour prêcher l'évangile. Dieu t'a parlé dans le cœur pour te dire d'arrêter de seulement faire une messe par semaine le dimanche. Va un peu à la messe aussi en semaine. Il y a des gens à qui Dieu a dit dans le cœur, prie un peu plus. Il y a des gens qui ont pris dans le cœur, dans ton salaire, prends tel, donne à tel frère. Il y a des gens qui Dieu a mis dans le cœur, va voir ton père avec qui tu ne t'entends pas, même si tu as raison, et puis va t'humilier. Mais il refuse de le faire. Il refuse de le faire. Bien aimé, ce n'est pas ma parole, la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles. Jésus dit que celui qui l'aime, c'est celui qui met en exergue sa parole. Il y a des gens qui pensent que pour aller au ciel, il ne faut pas faire du mal aux gens. C'est faux. Pour aller au ciel, il faut faire du bien. Ne pas faire du mal ne veut pas dire que tu fais le bien. Ne pas faire du mal, ça peut signifier que tu es indifférent. Bien aimé, qui va en enfer? C'est celui qui n'aime pas Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1.
Amen.
Le verset 8 à 9. Jean chapitre 3, verset 8 à 9. Voilà ce qui est. Chapitre 3, verset 8 à 9. C'est la première épître, donc c'est 1 Jean, chapitre 3, verset 8 à 9. Voilà ce qui est écrit. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès les origines. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de le commettre le péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut pécher étant né de Dieu. Viens l'aider. Commence à pleurer tes péchés.
Amen.
Vous savez, les gens pensent que quand tu pèches, c'est pas grave. Dieu pardonne, la miséricorde, Dieu va te bénir, se trompe lourdement. Il faut savoir ceci. Le seul moyen pour que ton péché devienne quelque part un chemin pour ton salut, c'est que tu le pleures. C'est que tu en aies, j'ai envie de dire, la haine. C'est que quand tu commets un péché, tu dois te pentir. Jésus crie à lui en priant et suppliant, en disant que je suis fait, j'ai besoin de toi. Mettra le péché.
Amen.
Ne pense que c'est quelque chose de simple. Il y a des personnes, lorsqu'ils pêchent, c'est pas grave, hein, ils sont assis. Oh, Dieu me pardonne, c'est pas grave, il y a rien. Mon frère, normalement quand tu pêches, tu vas t'allonger et pleurer, dire Seigneur, je t'en supplie, délivre-moi. Par pitié de moi. Parce que le péché, il y a l'enfer du diable. Celui qui pêche est du diable, pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que,
amen,
chaque fois que tu pêches, tu ruis le cœur du diable, tu désoles le cœur de Dieu. C'est pour quelqu'un qui a un péché, doit rapidement se repentir, doit rapidement se confesser, doit rapidement aller au pied de Jésus pour supplier la miséricorde et demander la grâce de ne plus recommencer et prendre les moyens. Il y a eu des saints frères et sœurs pour eux, ils se sont repentis de leur péché, étaient prêts à se jeter dans des arcs, des épines, des ronces, parce qu'ils traitaient durement leur corps. L'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps parce qu'il ne veut pas, après avoir prêché aux gens, lui-même être condamné. Il y a des gens qui sont condamnés, qui se condamnent, mais qui ne savent pas qu'ils sont condamnés parce qu'ils se disent, Dieu est miséricordieux, ils vont à l'église, Dieu continue de les bénir. Le fait que Dieu te bénisse n'est pas le signe que tu ne vas pas aller en enfer. Le fait que Dieu te bénisse n'est pas le signe que Dieu est fier de lui que tu m'aimes. Le fait que Dieu te bénisse, c'est parce que Dieu est amour. La Bible dit qu'il fait pleuvoir.
Amen.
Lui, il fait lever son soleil. Pas simple, il fait lever son soleil sur les mauvais.
Amen.
La preuve que tu es éligible pour le ciel encore, c'est que le péché te fait mal. C'est la repentance et c'est être au pied du maître. Mais ne traite pas le péché avec facilité. Ne traite pas quelque chose de simple. Sois exigeant et dur avec toi-même. Je suis désolé de vous le dire. Lorsque nous faisons le carême, on parle des trois P chez les catholiques. La prière, la pénitence et c'est quoi la prière? La pénitence, le stage. La pénitence, tu jeûnes. C'est le moment où tu sors de ton confort parce que tu veux arrêter de pécher. Tu veux être fidèle à Dieu. Mon frère, si tu ne sanctifies pas sur la terre, quelle place auras-tu au ciel? Parce que ceux qui sont au ciel, ce sont ceux qui, sur la terre, ont mené le bon combat. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, depuis la mort de Jean le Baptiste, le royaume des cieux est trahi par les violents. Ce sont les violents qui y entrent. Mon frère, ma soeur, qui pêche et lui diable. Ça ne veut pas dire que quand tu pêches, tu es en enfer. Ce n'est pas dire que quand tu pêches, on dit diable. Non. Ça veut dire que tu pêches, tu fais le bon plaisir du diable. C'est pourquoi celui qui pêche ne nourrit. Celui qui pêche ne doit pas s'amuser avec ça. Celui qui pêche ne doit pas négliger cela. Il doit se repentir. Il doit aller au pied du maître. Il doit prendre le bras de Jésus et dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. S'il te plaît, délivre-moi. J'accueille ton amour et je fais l'effort dès aujourd'hui de ne plus recommencer.
Amen.
Et ce qu'on a fait, il y a ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est différent de simplement pécher. Écoutez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 41 à 42. Matthieu chapitre 13, verset 41 à 42. Tu es Isabelle, tu ne sais plus à grand chose. Hein. Moi, maintenant, je suis en train de prier. Yes. Et pourtant, je te dis, mon pasteur, c'est pas grave, dis-moi. Alors, Matthieu chapitre 13, verset 41 à 42. Voilà ce qui est écrit. Matthieu 13, 41 à 42. Le seul homme envoie ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fraise ardente. Seront les peurs et les grincements dedans. Alors les justes exploseront. Bien aimé. Ce qui est écrit ici, c'est il parle des fauteurs d'iniquité et ceux qui sont des scandales. En d'autres termes, lorsque tu es en occasion de chute pour tu vas en enfer. Qui va en enfer? On a vu que ceux qui vont en enfer, ce sont ceux qui ont le choix. Ceux qui vont en enfer, ce sont ceux qui refusent d'aimer Dieu. Ceux qui vont en enfer, c'est aussi, on le voit ici, ceux qui sont des occasions de chute pour les autres. Bien aimé, tu peux aller en enfer. Tu peux aller si tu es occasion de chute pour les autres. Il y a des gens qui se disent, ma vie m'appartient. Je suis une mère de famille. Ce n'est pas grave si je fais le tour en boîte tous les jours. Je suis une mère de famille. Je peux vendre la drogue, ce n'est pas grave. C'est mon corps. Prendre la drogue. Alors, je ne vends pas, ok. Je peux vendre pour ma famille, ok. Je peux prendre la drogue, ce n'est pas grave. C'est mon corps. Ma sœur, toi qui te prostitues, toi qui es chrétienne et qui vis dans l'adultère, toi qui es chrétienne et puis tu vas comme un homme, tu peux te dire, c'est ton corps, c'est ta vie. Les gens disent, mon corps, c'est ma vie. Mais Jésus est clair. Matthieu 13 dit que ceux qui font l'objet de scandale, qui à cause d'eux, d'autres personnes se perdent, ces personnes-là vont répondre devant le tribunal divin et peuvent aller en enfer. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ta vie. Il faut faire attention lorsque tu es responsable d'autres personnes. Je parle là aux personnes qui sont responsables de groupe, aux chefs de famille, aux grands frères, aux grandes sœurs. La vie que tu mènes, quelqu'un te regarde. La vie que tu mènes affecte les autres. Lorsque tu vas voir ton ami, même ton ami ou ton frère, à qui tu te confies et à qui tu dis tout le temps, tu sais, le gars avec qui je suis sorti là, un mougou, il est bête. J'ai pris son argent. Mon frère, tu es en train d'encourager l'autre à la même chose que ton rencontre. Tu n'es pas en train de l'épier et tu vas répondre de cela. Combien de gens se confessent souvent lorsqu'ils vont confier pour dire, Seigneur, je te Seigneur, c'est mon père, j'ai péché à cause de moi. J'ai dit des choses qui a fait en sorte que mon ami commence une mauvaise vie. Combien de personnes se confessaient parce qu'ils ont dit des choses qui n'ont pas édifié les autres? Combien de personnes se confessent de ce que ils ont fait des choses qui ont peut-être scandalisé les autres? Le monde dit que la vie, c'est vie. Mais moi, je suis désolé pour toi. Si tu marches à cette montée, c'est ta vie qu'on compte à personne. Tu peux être surpris ou surprise. Parce que si à cause de toi, un serviteur de Dieu est tombé. Si à cause de toi, un enfant de Dieu est tombé. Si à cause de toi, quelqu'un est tombé. Quelqu'un est tombé dans le péché, dans le vice. Si à cause de toi, quelqu'un s'est éloigné de Dieu. Mon frère, c'est un péché dont tu devras répondre devant Dieu. Je ne vous dis pas tout pour vous faire peur, mais c'est une interpellation pour nous tous. Convertissons-nous. C'est une interpellation pour nous tous. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Parce que quand le Seigneur se présentera devant nous en juge, Il ne sera plus le Dieu de la miséricorde et il rendra à chacun selon ses œuvres. Et bien aimé, la colère de Dieu, bien aimé, regardez, c'est comme l'océan devant le mal que le diable peut te faire. Amen.
Amen.
C'est un thème, pardon.
Oui, vraiment.
Ça fait peur. Hein. Ça fait peur.
Mais c'est divin.
Amen. Est-ce que tu écoutes un peu ce que dit Saint-Vincent de Paul? Saint-Vincent de Paul dit que deux tiers des gens de l'humanité font. Pourquoi? Donc, Isabelle, on a vu tout à l'heure que ceux qui vont en faire, ce sont ceux qui ont le choix. Donc, ceux qui vont vendre leur âme au diable. Ceux qui vont en enfer, ça peut être ceux qui sont des occasions de chute. Ceux qui vont en enfer sont ceux aussi qui choisissent librement de aimer Dieu. Et là, maintenant, ceux qui vont en enfer, Isabelle, tiens-toi bien, c'est aussi ceux qui... Saint-Paul dit que deux tiers des chrétiens de l'humanité vont en enfer à cause de la paresse spirituelle. Isabelle, est-ce que tu savais ça?
Oh, André.
Saint-Vincent dit que c'est pas la Bible. Hein. Ça veut dire que c'est pas. C'est-à-dire qu'on va pas dire que c'est la parole de Dieu. Mais c'est une personne qui a vécu avec Dieu, qui fait un constat et qui nous interpelle. Il dit que selon lui, deux tiers des chrétiens, s'ils vont en enfer, c'est pas à cause du péché de la fornication, c'est pas à cause de l'adultère, c'est pas à cause de l'orgueil, c'est pas à cause de la c'est pas à cause de la condise, c'est à cause de la paresse spirituelle. Amen.
Amen.
Oui. Que les chrétiens qui disent, les chrétiens déchirent par chair, les chrétiens ne font jamais. Les chrétiens qui jamais leur vie ne se disent que bon Dieu, je vais en cœur avec toi. Les chrétiens ne font pas d'exercice spirituel. Les chrétiens qui veulent une vie chrétienne à l'eau de rose. Où ils pensent que Dieu est miséricordieux, ils peuvent passer des jours sans prier, ils peuvent ne pas faire trop d'efforts, ils peuvent se complaire. Les gens qui sont paresseux. Saint-Paul dit.
Amen.
On en fait à cause de ça. Est-ce que ça t'interpelle, Isabelle?
Ça m'interpelle, André.
C'est quand même compliqué, hein? Mon frère, ma soeur. Saint-Paul dit que la paresse est une des raisons principales pour lesquelles les gens vont en enfer. La paresse spirituelle, les chrétiens, il parle des chrétiens. Oh là, en principe, tu connais ce que je suis en train de dire. Tu décides de comprendre qu'en fait, quand tu es paresseux ou paresseuse, en fait, tu es en train de creuser ta tombe si tu te complais là-dedans. La paresse est pire que tout. La paresse spirituelle est la mort du chrétien. La paresse spirituelle tue les relations avec Dieu. La paresse spirituelle la porte au pire vice. La paresse spirituelle nous détourne de notre chemin en Dieu.
Amen.
Qui le constate? Saint François de Sales dit que la majorité des catholiques, là je ne parle pas mes frères qui sont pentecôtistes, là c'est pas vous. Saint François de Sales dit que la majorité des catholiques refusent d'aimer Jésus car ils préfèrent l'amour du péché. Oulala. Il y a des gens parmi nous, on aime tellement le péché qu'on relie l'amour de Dieu. Comment? Parce qu'on dit Dieu est miséricordieux. Je pêche, c'est pas grave. Il va me pardonner. Mon frère, examine le cœur. Examinons nos cœurs, c'est ça. Il est péché, c'est mon. Et donc à ce moment, parce que nous aimons ces péchés, des fois l'amour de sécher à l'amour de Christ, puisque nous n'avons pas tout mis pour notre pouvoir pour sortir de cette péché. Mais il y a des gens qui font les vraies choses pour sortir du péché. Non, les frères. Il y a des personnes qui font les vraies choses. L'apôtre Paul dit, il préjure non son corps. Il y a des gens qui pleurent, Dieu, qui jouent le jeu pour dire, Seigneur, délivre-moi. Toi, tu dis, Seigneur, pardon. Triste constat que fait Saint François de Sales. Il y a des personnes ici, si l'occasion leur est donnée de vivre sur la terre éternellement dans le péché, sans mourir, et sans que ça ne mène à faire, ils ne seraient même pas chrétiens. Il y a des gens ici, si l'enfer n'existait pas, ils ne seraient pas chrétiens. Il y a des gens, si tu es à partir d'aujourd'hui sur la terre là, personne ne souffre. Tu peux pécher comme tu veux. Tu n'iras pas en enfer. Il n'y a aucune condamnation. Oh là là, ah, les gens déforniqués en dingue. C'est-à-dire que l'adultère, là même, c'est, on allait trouver l'autre monde, on allait parler d'adultère, de fornicateur. C'est-à-dire, on devait mentir même jusqu'à. T'as demain. C'est-à-dire, tu jures devant Dieu. C'est-à-dire, tu jures devant Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais, parce qu'on devrait mentir, épauler. Aïe! Si le péché n'était aucune conséquence, on même irait. Combien aimerait Jésus? Combien se sanctifierait pour l'amour de Dieu? De conscience de Saint François. Je vais aborder d'autres points rapidement. C'est le cas des enfants. Ah oui, et les enfants meurent. Et je peux nous aider là-dessus, non? Des fois, on se pose la question quand les bébés meurent, quand ils en avortent. Alors, il faut savoir que l'avortement, ce n'est pas quand on est à 8 mois de grossesse. Ils étaient au courant que c'est quand on est à 8 mois de grossesse. Que l'avortement, à partir même de 2 semaines, c'est déjà l'avortement. Tu es au courant? Si tu tues la semaine, tu es au courant?
Ah, amen.
D'accord.
Amen.
Bon, comme toi et moi, nous sommes au courant, disons ça aux autres. Hein. L'avortement, frères et sœurs, c'est quand l'enfant est formé dans le ventre. L'avortement, c'est à partir de quand l'âme est créée par Dieu et née à l'enfant. Et l'âme est donnée, on estime que l'âme est née à partir de la formation de la cellule. Donc, les gens qui sont portés, même à 1 mois, 2 mois, 3 mois, sont concernés par ce que je veux dire. Les enfants qui sont tués à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sont concernés par ce que je veux dire. Donc, ceux qui n'ont pas la raison et la conscience, parce qu'ils sont trop petits, sont concernés, pour ceux qui ne le savent pas. L'Église les appelle désormais. Avant, on a cru, je pense que c'est Saint Thomas d'Aquin, je ne sais pas si l'abbé, est-ce que tu es là pour me dire si ce que je dis est vrai? Je pense que c'est Saint Thomas d'Aquin qui avait parlé des larmes, n'est-ce pas? Ou bien, Warren, frère, c'est Saint Thomas d'Aquin qui a parlé des larmes, non? Les larmes. Les larmes, qu'est-ce que c'est? Saint Thomas d'Aquin disait que lorsqu'un enfant meurt, il n'est pas au paradis, il n'est pas parfait, il est dans, il ne souffre pas. Oui, l'Église le dit. Les enfants avortés, la vie, sont mis, on les appelle les martyrs de la vie. Pourquoi? Le fait que spermatozoïdes se battent pour vivre, alors qu'il y en a des millions, voire des milliards dans les trompes, ça veut dire que le spermatozoïde se bat pour la vie. Le spermatozoïde milite pour la vie. L'enfant, avant même de naître, avant même d'être conscient, a milité pour la vie. Ainsi donc, si la vie est dans le... Alors que lui, il a milité pour la vie. Il était pour la vie. Il a marché pour la vie. Il s'est battu pour la vie. Alors, c'est un martyr. Et donc, il va... Parce que Jésus dit... Laissez venir à moi les enfants. Ce sont ceux qui leur ressemblent qui iront au ciel. Amen.
Amen.
Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose?
Oui, je suis en train. Bien.
Je finis mon enfant. Deuxième grand point, pourquoi l'enfer? Pourquoi les gens en enfer alors que Dieu est amour? La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 3, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi l'enfer? Parce que l'enfer, ce n'est pas le désir de Dieu. Pour l'homme, chose. Apocalypse 20, 10, dit que Satan, j'étais dans les temps de feu avec ses faux prophètes. L'enfer de base est pour ses anges. Malheureusement, l'être humain qui refuse Dieu sur la terre, l'être humain qui refuse, qui vit dans tout ce qui est plus haut, c'est cela ressemble au diable. Isabelle, tu dis que j'ai le diable, c'est ce que j'ai dit.
Oui, amen.
Lorsque tu es dans la prière, lorsque tu signes ton péché, lorsque tu vois l'iniquité, lorsque tu remplis les cas que j'ai dit plus haut, et sans démon, si tu ne remercies pas, quand tu meurs, tu vas, parce que chacun va en blanc. Dieu qui t'emmène dans l'enfer, qui en fait le choix. C'est toi qui en fais le choix. Les hommes, beaucoup d'hommes, ne font pas le choix de l'enfer. Ils font le choix de l'enfer. Ils ne font pas le choix de l'enfer en disant « Je vais en enfer et je refuse le paradis. » Tout le monde dit « Moi, je choisis le paradis. Moi, je choisis l'enfer. Moi, je choisis le paradis. » Personne ne dit « Je vais aller en enfer. » Non. Par contre, beaucoup font le choix de la damnation éternelle, donc de l'enfer, parce qu'ils font le choix des péchés mortels. Qu'est-ce qu'un péché mortel? Le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 1853, un péché mortel, un péché, quand tu meurs dedans, tu vas directement en enfer. Tu vas directement en enfer. Il y a quelqu'un qui va me dire, non André, tu n'es pas Dieu. Je dis, le catéchisme, c'est Dieu qui parle. Mais mon frère, ma soeur, Jésus était clair. Jésus était clair là-dessus. Jésus a été très clair là-dessus. Il dit que dans les derniers temps, ils vont envoyer ses anges qui vont séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce que l'ivraie? L'ivraie, ce sont les fils du diable. Et qui sont les fils du diable? Ce sont ceux qui agissent comme lui, qui refusent l'amour de Dieu, qui vivent dans le péché à outrance sans pleurer, sans demander pardon à Dieu, qui vivent dans le péché sans se battre pour se sanctifier, qui vivent dans la paresse. Isabelle, s'il y a quelqu'un de toi, dis-lui pardon, il faut te convaincre. S'il y a quelqu'un de toi, ou bien, même moi, je ne parle pas bien. Dis un peu à son ami, dis pardonnez, convertissez-vous. Nous n'avons peut-être pas directement l'enfer, mais nous faisons le choix des péchés mortels. Les péchés mortels sont les suivants. L'orgueil, l'avarice, donc le fait d'être avare, tu veux garder ton argent toi seul, tu ne sais pas donner l'autre. La jalousie. Bien aimé, tu as besoin de ton frère parce que tu es jaloux. Quand le lui arrive, tu es content. Parce que dans ton cœur passe, on sait. La colère. Il y a des gens qui sont fiers à dire, moi, je suis colérique. Acceptez-moi comme je suis. C'est un péché mortel. Tu peux aller en enfer avec ça. La luxure. La pornographie. Quand on parle de luxure, on parle de pornographie. On parle de tout ce qui est péché en rapport avec le sexe. La gourmandise. Et enfin, la paresse, c'est des péchés mortels. Tu meurs dedans, tu vas direct en enfer. C'est l'enseignement de l'Église. Je suis conscient de la miséricorde de Dieu. Mais si cet enseignement façon si dure, c'est pour que tu comprennes que ce n'est pas un jeu, le salut de ton âme. Il y a un combat spirituel. Satan et ses anges ont décidé que tu dois vivre là-bas. Toi, que fais-tu? Je vis le supplice d'enfer. Saint Faustine de Kowalska, apôtre de la divine miséricorde, qui est né au XXe siècle, dit ceci après avoir visité l'enfer. Ainsi dit ce que quelques supplices qui vont en enfer. Elle parle de la perte de Dieu, le fait d'être coupé de la présence de Dieu, le fait d'être coupé de la vie de Dieu. Deuxième suisse, le remords. Parce que tes péchés vont être devant toi tous les jours. Troisième supplice, le reproche de conscience. Ta conscience va être tellement vide. Et tu vas tellement regretter. Mon frère, n'attends pas qu'il soit trop tard. Troisièmement, la grande conscience que cet état est immuable et éternel. Tu serais conscient du fait que là ne finira jamais. Quatrièmement, le feu qui te dévore, allumé par la colère de Dieu. Bien aimé. La Bible dit que la mort d'un homme dépend de ça. Imagine à quel point la colère de Dieu donc est forte. La force de Dieu est infinie. C'est donc que le feu allumé par sa colère peut être d'une couleur infinie. Bien-aimé, à toi qu'il soit trop tard. L'obscurité, les ténèbres. Ensuite, la puanteur extrême. Ensuite, la compagnie de Satan et de ses démons. Et enfin, elle que tu auras envers. Comprends-tu, mon frère? Oui. Que tu ne te pas. Tu haïras Dieu en enfer comme tu n'as jamais haï personne. Et ça va te faire mal, pourquoi? Parce que tu haïras une personne qui a la victoire parce que toi, tu seras dans la défaite. Que ce que j'ai dit est dur, mais c'est pour nous interpeller tous, moi y compris. Bien-aimés, prenons le salut de nos âmes au sérieux. Mon frère, n'attendons pas. J'ai le cœur qui saigne parce que je sais que le cœur de l'homme est froid, le cœur de l'homme est dur, le cœur de l'homme ne sait pas écouter. Mais je bénirai Dieu et je bénis Dieu si quelqu'un ici a écouté ce que j'ai dit et décide désormais de donner sa vie à Jésus sans partage. Décide désormais, lorsqu'il pêche, de se tourner vers Jésus-Christ en vérité, de lui tenir la main, lui dire « Seigneur, je suis faible, j'ai besoin de toi dans la vie. » Mon enseignement est fini.
Amen.
Alors, j'ai quelqu'un qui va témoigner tout à l'heure de son expérience qui rejoint un peu l'enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que cette personne peut ouvrir son micro? Tu peux ouvrir ton micro pour témoigner. Tu as 5 minutes. Ce ne sera pas long. C'est bon? Tu es là?
Bonsoir.
Ok, vas-y. Alors,
j'ai un petit problème de connexion. Donc,
La personne va témoigner de façon anonyme. Donc, vas-y.
Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci pour l'enseignement. Bon, je vais faire un témoignage sur ce que j'ai vécu. Bon, aujourd'hui, il y a de cela 7 ans maintenant, 7 ou 6 ans. J'étais en classe de seconde et j'avais décidé de fumer. Le chanvre, ok. Donc une fois, je suis avec mes amis et tout, on se met à fumer et tout, tranquillement et tout. Et au bout d'un moment, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais que je n'étais plus dans mon état normal, bon, de ce que les gens disent autour, j'étais devenue comme folle. Mais moi, ce que je vivais, c'était quelque chose de très différent. Déjà, j'étais en train de me voir en train de tomber dans un trou. Et le trou, il était. En fait, il était sans fin. Je ne faisais que tomber, que plonger à l'intérieur. Et je faisais que crier, en fait, que je vais où, je vais où, je vais où, je vais où. Et
S'il te
pendant
plaît,
que
on ne
je.
t'écoute pas bien. On ne t'écoute pas bien. Essaie un peu d'augmenter ton volume, s'il te
Excusez-moi,
plaît.
un problème de connexion. Donc, quand je tombe dans le trou et tout, au début, bon, quand j'étais en train de tomber, je ne faisais que me poser la question, je vais où, je vais où. Et au même moment, je commençais à voir toute ma vie défiler. À l'époque, je crois, j'avais 16, 17 ans. Donc, je voyais un peu tout ce que j'ai eu à faire et tout. Et comme André disait au début, c'est d'abord les remords. Tu as énormément de remords. Bon, moi, quand j'ai vécu, hein, c'était vraiment des remords parce que j'étais en train de me dire, je voyais toutes les fois où le Seigneur m'avait parlé, il m'avait dit, voilà, grandis, voilà et tout, je t'aime et tout, voilà. Il y avait, c'était tellement ça. Et après les remords, c'était, bah, je regrettais fortement, je regrettais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais en enfer. Parce que je commençais à ressentir le feu autour de moi. Les gens autour, bon, moi je ne savais pas, hein. Genre, c'est après que les gens m'ont dit, mais tu es en train de devenir folle et tout. Mais ce que je vivais, c'est que j'étais en train de complètement partir. J'étais en train de complètement partir. Et ce que je vivais, c'était vraiment, je ressentais ça. Je criais, mais je brûle, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Et tout. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pour moi, c'était comme si c'était, je ne vais pas dire une éternité, mais c'était vraiment, c'était hyper long. C'était trop long. C'était insupportable. Et je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que penser à ma mère. Je me disais que ah, voilà, je vais aller en enfer et tout. Donc c'était horrible. Et dans la chute, je me suis dit, ah, je ne suis pas encore, je crois que je ne suis pas encore arrivée à destination. Parce que je ne suis pas encore, bah, j'ai encore toutes ces pensées-là et tout. Et j'ai commencé à, j'ai appelé la Vierge Marie. J'ai dit, je pense que j'ai fait le chapelet. J'ai dit, Sainte Mère, aie pitié de moi, intercède pour moi. Et donc, j'ai commencé à faire le chapelet, j'ai commencé à faire le chapelet. J'ai fait le chapelet. Je pense que j'ai dit Jésus, aie pitié de moi. J'ai juste demandé à Dieu d'avoir pitié de moi et de se souvenir de moi, parce que je sais qu'il m'aime. C'était quelque chose de très horrible que j'ai vécu. Je ne souhaite à personne. Mais bah à la fin, je suis revenue dans mes états. Et les gens me disaient autour, mais qu'est-ce que toi tu as vécu et tout. Et je sais pas comment expliquer ça parce que, en fait, là, c'est même juste. En fait, les mots ne sont pas assez forts pour pouvoir expliquer ce qu'on ressent quand on est dans cet état ou quand on vit. C'est ce que j'ai vécu. Voilà, donc, c'était un peu ça mon témoignage. Bonne soirée.
Amen. Mon frère et ma sœur, Isabelle,
Oui, ouais.
je vous ai fait peur.
Pas beaucoup, hein.
Ah oui, on
Oh.
a peur, hein. C'est pas faux.
il vaut mieux qu'on soit conscient de ces choses maintenant. Moi, je prie Dieu
Amen.
pour que tous ceux qui sont disciples de Jésus, que tous on aille au ciel. Nous allons prier juste,
Amen.
nous allons prier 1 minute. J'aimerais que tu fermes tes yeux, tu pries cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu peux prier, hein, tu répètes. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Que ta miséricorde me sauve. Ne regarde pas mes fautes. Regarde mon cœur. Donne-moi un cœur qui t'aime. Un cœur qui reconnaît ses fautes. Que jamais je ne sois aveuglé par les choses de ce monde et par mon orgueil. Mais que toujours, Seigneur, je puisse t'aimer, te prendre la main, confesser mes péchés, faire l'effort de me convertir et recevoir la force du Saint-Esprit. Je sais que ton sang a coulé pour moi et que j'ai le salut à cause de ton sang. Donne-moi d'aimer ce salut. Merci de me préparer une place au ciel et de déjouer les plans du démon. Amen. Mon enseignement est fini. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Amen, 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 amen.